France Musique.
11h sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Benoît Dutertre avec Étonnez-moi Benoît. Bonjour mon cher Benoît.
Bonjour mon cher Philippe Cassard, et filez faire vos courses de Noël, vous aussi.
Étonnez-moi Benoît.
Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Bernard Mabille, l'homme qui transforme la politique en comédie. On lui doit les meilleurs sketchs de Thierry Leluron. Son nouveau spectacle suit les péripéties de la campagne présidentielle. Mais Bernard Mabille est aussi un passionné de chansons qui fut même à ses débuts critique musicale. On le retrouve dans quelques minutes. En fin d'émission, la chronique de Martin Péné consacrée au charmant Rissé Barrier. Et puisque voici venues les vacances de Noël, n'oublions pas non plus que les fêtes de fin d'année sont un peu partout en France. Le moment de l'opérette. La ronde des policemen, extrait d'Orphée aux Enfers d'Offenbach. Alors réjouissez-vous, habitants d'Angers, parce que même si malheureusement on donne de moins en moins d'opérettes chaque hiver en France, c'est bien triste et je m'en lamente régulièrement. Heureusement pour vous, habitants d'Angers, il y a encore une représentation demain, 18 décembre, de cet Orphée aux Enfers produit précédemment à l'Opéra de Nantes. Je vous le dis, profitez-en. Les plus grands comme moi ont évidemment reconnu le générique de Thierry Lafront, d'une musique signée Jacques Loussier. Jacques Loussier qui berça avec cette musique notre enfance. Mais je voulais vous faire entendre cette musique surtout pour saluer la mémoire de Jean-Claude Deray, l'auteur de Thierry Lafront, qui vient de nous quitter à l'âge de 95 ans. Thierry Lafront, ça c'était au début des années 60, mais Jean-Claude Deray, grand résistant, membre de la 2e DB, était aussi un passionné de chansons, auteur-compositeur. Il avait débuté avec Agnès Capri, dirigé plusieurs cabarets et même mis en scène les refrains de Francis Lemarque. On le salue donc Jean-Claude Deray, tout comme on salue sa fille Zabou Bretman.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et c'est le temps maintenant de retrouver mon invité de la semaine. C'est quelqu'un qui nous fait beaucoup rire avec la politique. On lui doit les meilleurs sketchs de Thierry Leluron. Son nouveau spectacle est un peu partout en tournée. Mais c'est aussi un vrai passionné de musique et de chansons, justement, Monsieur Bernard Mabille.
Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux piqueurs, alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare, j'avale 4 expressos très forts. Je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle. Le reste, je ne m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, j'apprends que Machin va jouer Scapin. Ah, un rôle pour moi. J'apprends que Dubon va jouer Néron, il sera mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins, hein, que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole? J'ai tout, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance. Et moi aussi, je serai l'idole des foules. Je suis comédien et je sens soudain mon destin à portée de ma main. Alors je remonte prendre mon pain, je me sens des ailes. Paris, tiens, tout va bien, je fonce à Boulogne. Puis en cours, je dis, je veux voir Monsieur Dartmoor. En conférence, oh là là, aucune importance, j'attendrai, je suis dans un bon jour. Je suis comédien.
Bonjour Bernard Mabille.
Bonjour Benoît.
Faut que je commence par vous remercier parce que vous m'avez fait découvrir cette chanson, Jacques de Brancard, 1969. Un portrait, peut-être un autoportrait du comédien, je trouve ça formidable.
Ils n'ont pas changé, ils sont toujours pareils. C'est Pierre Bouteiller qui me l'a fait découvrir.
Ah bon? Cher Pierre Bouteiller, ouais, à qui je dois cette émission.
Ah oui, oui, c'est bien, alors on est en famille. Mais parce que j'écoutais son émission, à l'époque j'étais pas du tout dans le métier bien sûr, et il passait très souvent de Brancard. Et je trouvais ça magnifique, c'était de la chanson réaliste. Il y a eu un moment où ça m'a paru totalement démodé.
Ouais.
Et je trouve que le temps faisant, je l'avais pas écouté depuis un moment. C'est vraiment chouette, quoi.
Voilà, c'est ça, c'était en 1969, ouais, avec l'orchestre, ouais, de Jacques Dangean. Ouais. Ça ressemble un peu au...
Jacques Dangean qui avait accompagné Johnny Hallyday, hein, attention.
Attention.
Ils étaient protéiformes, je sais pas comment on dit, mais Dangean, il passait de Johnny Hallyday à de Brancard. Ouais.
Voilà, vous êtes vraiment dans le ton, parce que c'est rare qu'un invité puisse me dire qui est Jacques Dangean exactement. Il faut dire que vous avez été critique de chansons. Ben oui, on y reviendra.
J'ai toujours été passionné par la chanson, parce que je pense que une vie, un quotidien sans musique, autant se flinguer, quoi.
Ah oui, carrément.
Ah, moi, j'écoute de la musique toute la journée. Mais je sais pas trop d'où viennent les gens. Je suis pas historien de la musique, mais j'écoute de la musique toute la journée, oui.
Et la journée de Jacques de Brancard, je me lève à 2h de l'après-midi, je descends au café. Ça ressemble un peu à votre vie,
ou... Ah non, plus du tout.
Pas du tout.
Ça a été ma vie, oui. Parce que là, c'est quand même un comédien qui a beaucoup de mal.
Oui,
au début, d'abord, je suis pas comédien, mais...
Ah, voilà, c'était la deuxième partie de la question. Et au fond, est-ce que vous êtes un comédien?
Bah non, parce que j'ai pas pris de cours, je connais pas Simon et compagnie, mais moi, je suis autodidacte. Mais c'est vrai que tous les débuts étaient la chanson de Brancard avec cette espèce d'orgueil, d'égoïsme.
Oui.
Quand même, au moins.
Oui, je m'occupe de moi.
Quand j'écoutais ça, là, tout de suite, je pensais une chanson de Se regretter Guy Béard. Voilà quelqu'un énorme aussi,
oui,
j'aurais dû vous le mettre,
oui,
qui passe un peu à côté de la plaque. C'était « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Ouais. C'est marrant parce qu'on parle de Brel, de Ferré, de Brassens, et Béart est un peu oublié alors qu'il est, il est largement injuste. À la hauteur de ces gens-là.
J'ai eu la joie de le recevoir ici, pas très longtemps avant sa disparition, mais quel auteur extraordinaire et compositeur.
Puis alors, il suffisait de mettre un euro dans le jukebox et ça repartait, quoi. Il était prolixe, il chantait beaucoup et tout.
Alors, si vous n'êtes pas comédien, vous êtes quoi, au fait, Bernard Mabille?
Oh, je suis un mec qui a essayé de s'en sortir et qui a fait que le destin un jour amené sur scène, hein, vous voyez. Je pense que moi dans ma famille.
Il y a un nom pour votre métier, il y a un.
C'est humoriste.
Voilà, simplement.
Je n'irais pas jusqu'à journaliste. Moi, je travaille un petit peu en journaliste, en toute humilité, parce que j'ai une formation de journaliste sans diplôme de aucun, hein, attention.
Ouais. Autodidacte, vous l'avez
oui,
dit.
Oui, oui, oui. Oui, c'est humoriste.
Humoriste.
C'est formidable d'être humoriste. Vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous dites qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, c'est pas marrant. Il faut que j'aille faire rire les autres. Hop, vous prenez le sourire. C'est génial. Entendre une salle rire, c'est génial.
Et je peux dire, je m'en suis aperçu, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. J'ai vu votre spectacle de la tête aux pieds au Théâtre Antoine.
Ouais.
Et tout le monde rit beaucoi et moi le premier.
J'étais content que vous soyez là. Parce que
moi, j'étais content aussi.
Des gens que j'aime lire.
Faites plaisir, mais il y avait en tout cas dans le spectacle beaucoup de politique, mais aussi beaucoup de regards sur la vie quotidienne au fond. Hein,
ben oui.
Et ça, c'est merveilleux aussi. Ben c'est l'autre face de votre art qui m'a beaucoup frappé aussi.
Ben, c'est-à-dire que je voulais pas rester uniquement chansonnier, quoi.
Voilà, justement. S'il y avait que de la politique, vous seriez chansonnier.
Alors, je suis pas fou, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour cette partie politique. Mais après, il y a la vie de tous les jours.
Voilà.
Moi, je râle contre tout ce qui me kikine. Et
il y a les vieux, il y a les nudistes, il y a les, la
attendez,
retraite.
Attendez, quand on a entendu dire qu'il allait y avoir un carré nudiste à Paris, c'est comme hurler de rire.
Bon, on va revenir à tout ça. On va essayer dans l'ordre, au fond, en commençant par le début.
C'est bien, parce que moi, je suis un peu vrai brouillon. Hein, donc,
On va remonter peut-être dans une musique de vos toutes jeunes années.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui. Personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit. Et depuis, je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin.
Je veux pas vous vieillir, Bernard Mabille, parce que Trainet a enregistré ça pas loin de 10 ans avant votre
autant
naissance.
Autant 38. Il avait du talent, autant il était désagréable dans la vie. C'était incroyable.
Oui, il était pas facile, je crois.
Oh, quel sale type. Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, je l'ai vu, je sais pas, 8 ou 9 fois à l'Olympia. J'y allais tous les soirs quand il a fait l'Olympia. Et il y avait ce moment magique où à la fin, Il interprétait « Je chante » et il y avait le chapeau sur le piano. Et là, il mettait le chapeau sur la tête. Il prenait le chapeau et c'était le Trenet qu'on a connu.
Ouais.
Moi, j'avais connu Trenet tout petit parce que mes parents m'avaient emmené sur la plage de Cabourg. Il y avait un podium et la vedette du podium, c'était Charles Trenet. Donc ça, c'est dans les années... Attends, je suis né en 47. C'était 55, 56.
Ouais.
Trenet. Et alors, quand on me dit « Trenet fait l'Olympia, il faut faire un truc », je fais 4 pages sur lui, mais vraiment écrite avec le cœur, avec tout ce que je pouvais donner sur Charles Trenet. Et puis, son attaché de presse me dit « Est-ce que ça vous ferait plaisir de le rencontrer ?» Bah, je dis « Oui, vous imaginez. » Il m'a même pas dit bonjour.
Il ne m'a même pas dit bonjour. Ouais. C'est pour ça que vous êtes vengé après.
Avec
le Luron.
Oui, j'ai fait de parodies de Trenet. Il y avait donc Je chante qui s'appelait J'imite. C'était l'entrée du spectacle, c'était formidable. Et sur 12 francs, alors là, il m'a fait un procès. J'avais écrit 12 trans. Ça vous laisse
à penser. Il a carrément fait un procès.
Ah oui, il était très, très désagréable. Après, je l'ai connu grâce à le Luron et Jean-Jacques Debout parce que on a souvent déjeuné ensemble. C'est un drôle de personnage. Voilà. Mais alors, vous voyez, j'en veux encore à l'Académie française, aux académiciens, de ne pas l'avoir accepté sous la coupole. Parce que je pense que son œuvre est beaucoup plus gigantesque, plus énorme, plus populaire qu'un tas de gens qui sont là-bas.
Vous êtes pour le prix Nobel à Bob Dylan aussi,
Tout à fait. Je connais pas bien Bob Dylan. Enfin, je connais Bob Dylan, je sais pas trop ce qu'il a écrit. Si, j'ai lu le bouquin, qui est magnifique.
Mais c'est évident que traîner 50 ans de poésie française.
Vous vous rendez compte. Quand on voit le nombre d'académiciens qui sont passés, on ne sait même pas ce qu'ils ont écrit. Et Trenet, Brassens, c'est quand même exceptionnel. Et quand vous n'avez pas le moral, vous écoutez Trenet, quelle que soit la chanson, paf, ça vous file là. J'allais dire la pêche, comme aurait dit Feu Juppé, ça vous file la super pêche.
Vous êtes né à Bois-Colombes.
Ouais.
J'ai lu que vous aviez un père Algérie française et une mère communiste.
Oui, c'est vrai. Oui,
C'était à peu près comme ça.
Ma grand-mère était communiste. Ma maman était neutre. Ma grand-mère était communiste. Et elle était communiste, mais je dirais une vraie communiste, parce que mon grand-père, donc, son mari, était chauffeur de locomotive à vapeur.
Ah, vous voyez,
la bête humaine.
Ouais.
Il était chauffeur de locomotive à vapeur. Et c'est quelqu'un qui est mort de la silicose 2 mois après sa prise de retraite. Vous voyez, je comprends que ces gens-là, qui, par tous les temps, qui en ont bavé, mais comme des bêtes. Je comprends qu'ils pouvaient voter communiste et croire au communisme.
Mais il devait y avoir des discussions animées dans la famille.
C'était formidable.
C'était des combats, des joutes.
Mon père était plutôt à l'Algérie française, il lisait l'Aurore, Minute, il m'a traîné voir un meeting, j'étais gosse, de Tixier-Vignancourt.
Ah oui,
oui. Et alors ça me cassait les pieds, et puis après j'ai pris goût et je me suis dit, tiens, vivons de la politique.
J'ai lu aussi que vous aviez été représentant de commerce chez Nestlé.
Ouais. Nestlé, j'ai jamais vu Madame Bettencourt, mais je faisais de la démonstration de purée en flocon. J'étais.
Ah ouais.
À l'époque, si vous voulez, c'était totalement inconnu la purée en flocon. Quand on est arrivé avec ça chez les commerçants, parce qu'on faisait du dépôt-vente dans les épiceries, quand on est arrivé avec ça, les mecs nous ont pris pour des fous et même la ménagère se disait, mais on peut pas faire de la purée sans de la vraie
pomme de terre.
Donc je faisais des démonstrations et je faisais des démonstrations dans les cantines scolaires, aux hôpitaux et tout ça.
Et vous pensiez à ce moment-là alors gravir les échelons du métier et finir votre vie comme représentant en purée en flocon?
Dans le privé, style Nestlé, tout ça, je ne voyais pas d'avenir parce que je suis rebelle. J'aime bien être libre, donc je ne me voyais pas. Et puis...
Et c'est une rencontre avec Henri Chappier qui a changé votre vie.
Formidable Henri. Je l'ai rencontré dans un lieu improbable. Je voulais pas aller à cette soirée. C'était un ami avec qui je travaillais chez Nestlé, qui faisait une pendaison de crémaillère à Montjavoux. Vous voyez, c'est...
Non, 80, je vois pas.
Non, mais 80 km de Paris, la maison était encore en ruine. Et il m'a dit, viens, ça sera sympathique. Puis je voulais pas y aller. Puis j'y suis allé et je suis tombé sur Henri Chappier. J'ai eu un coup de peau terrible. Je dois beaucoup à Inter. Je l'avais écouté dans Radioscopie 3 jours avant, Chancel.
Ah oui.
J'étais dans ma voiture et ça m'avait... Je connaissais Chappier, je connaissais un peu son cinéma, machin. Et puis je le lisais dans Combat. Et je savais tout de lui. Et alors là, voilà, le comédien, parlez-moi de moi.
Donc il était content.
Toute la soirée, je ne lui ai parlé que de lui. Et il y avait Patrick de Rosebeau, je ne sais pas si vous avez connu, qui était le critique théâtral de Combat. Et en partant, ils m'ont dit, Philippe Tesson lance un nouveau journal, Le Quotidien de Paris, dans une dizaine de jours. Et je pense qu'il faut venir le voir. Vous avez votre place dans ce canard pour parler de variété, puisque de j'aurais parlé
c'est
de
comme
variété.
Ça. Donc voilà, on y revient que vous êtes devenu finalement critique musical chansons, mais parce que vous aviez une vraie passion pour la chanson.
Ah oui, j'adorais ça. J'avais 2000 disques.
Ah oui.
Ah ben vous savez, quand vous faites de la purée en flocon, il faut trouver une passion à côté, sinon. J'ai toujours aimé la.
Mais c'était quoi les tendances de votre discothèque?
Il y avait beaucoup d'Hallyday, beaucoup d'Hallyday. Hallyday. Nous étions prisonniers de Marcel Amont, Gilbert Bécaud, des gens comme ça qui nous gonflaient un peu puisqu'on était jeunes. Moi, j'avais une quinzaine d'années. Et je me souviens toujours, j'étais au lycée Carnot et je me souviens toujours montrant à mes copains du lycée, sur le trottoir du lycée, le disque d'Hallyday Killy Watch. Et ça, je ne savais pas que ça allait changer notre vie, que ça allait amener finalement mai 68 et tout ça, parce que c'est quand
ça
même...
Ça va ensemble.
C'est les révoltes
encore
rock.
Encore que les yéyés et les gauchistes, ils n'étaient pas très copains.
C'est le rock, c'est la rébellion, les choses comme ça. Je revois cette image. Mais j'avais pas de classique, j'aime pas le classique, à vrai dire, mais j'avais beaucoup de jazz.
Mais alors, je sais pas comment, alors quand on a bavardé l'autre jour, est arrivé, parce que ça n'a vraiment rien à voir, le nom de Marcel Merquès et Paulette Merval.
Ah oui, parce que là, j'allais avec mes parents,
C'était avant.
On allait à Mogador. Ah bah oui.
D'accord. Vous allez voir les une fois par an, comme beaucoup de familles, un grand spectacle.
Voilà. On sortait pour Noël. Et on n'était pas une famille très, très aisée. Bon, c'était pas, je vais pas vous faire du Zola non plus, mais. Là, on sortait une fois par an à Noël.
Vous avez
à Paris.
Vu Guettari et Jean-Richard.
Bien sûr, j'ai vu le Châtelet, j'ai vu Mariano, j'ai vu tous ces gens-là. Et Marcel Merquès et Paulette Merval, ou je sais plus.
Oui, c'est ça.
Un des premiers textes que me demande Thierry me dit, j'aimerais que tu me fasses une parodie d'opérette Merquès Merval.
Ah oui.
Ah, j'ai dit, mince, ça me revient dans la tête, c'est formidable.
Eh ben, écoutez, l'original.
Le cœur bien souvent se lève dans un fugitif émoi, mais l'amour vient à son heure et l'heure a sonné pour moi. J'aurais beau faire jusqu'au bout du monde, à mes yeux ravir les tiens, je te reverrai chaque seconde, c'est malgré toi, mais tu me tiens.
Parmi tant d'autres qui sont là, pourquoi choisir Sylvain?
Sait-on le pourquoi de vos jours? Sait-on le pourquoi de l'amour? Oh, il est une femme au monde, une seule brune ou blonde, c'est celle qu'on aime et veut garder.
Marcel Merquès, c'est Paulette Merval, dans Princesse Xardas. Voilà, vous étiez peut-être dans la salle, Bernard Mabie.
Et alors Thierry m'avait demandé de faire une parodie de Rosemary, Omar Rosemary.
Oui.
Et alors, il était et Marcel et Paulette, c'est-à-dire que d'un côté c'était... Marcel, et quand il se tournait, c'était Paulette. C'était très marrant, très marrant.
On va en parler d'ailleurs tout de suite de votre rencontre avec le Luron. Mais encore un mot quand même de ces années de critique musicale. Alors, vous passiez votre vie à l'Olympia. Vous aviez même un peu votre fauteuil attitré.
Ouais, on avait nos fauteuils. Il y avait le rang des critiques. Il y avait l'Aurore, le Figaro, la Croix, le Quotidien, le Monde. Je me souviens, Le Monde, c'est un mec qui s'appelait Claude Fléoutère, qui était détesté par tout le monde, d'une méchanceté. Quand je suis monté sur scène, il a même pas attendu que je rôde le spectacle. C'était mes premiers pas sur scène seul. Il est venu me déglinguer le premier jour. C'est pas gentil.
Vous étiez un critique méchant ou
Pas méchant. Ben, j'étais honnête.
Honnête. Voyez,
je vivais très mal à l'époque, parce que pour devenir critique au Quotidien de Paris, il fallait, comme Bernard Palissy, avoir brûlé ses meubles. Ouais. Pour vivre un peu, donc je vivais très mal à l'époque et j'ai toujours refusé ce qui faisait la joie du critique, les voyages, vous savez, ça m'a toujours
les
étonné,
bons hôtels, bah voilà, les grands restaurants,
ça m'a toujours étonné que pour écouter le dernier Julien Clerc, qu'il faille aller à New York, par exemple, alors qu'on peut très bien l'entendre. Alors je crois que ça n'existe plus parce qu'il y a moins d'argent.
Oui.
J'ai toujours refusé, donc j'étais libre. J'ai jamais joué au poker. Ouais. Ah ouais, c'est un coup classique, le poker.
Ah bah oui,
après le spectacle, vous alliez chez l'artiste, vous jouiez au poker et vous gagniez un peu d'argent.
Non, vraiment?
Bah oui. Ouais. À partir de là, vous pouvez plus lui taper dessus. Bah oui, mais je peux vous raconter des tonnes de choses.
C'est aussi, après Philippe Tesson, Jean-François Kahn que vous avez croisé à ce moment-là et avec qui vous avez travaillé encore comme critique aux nouvelles littéraires.
Je l'ai plus que croisé, Kahn. J'avais une passion pour Kahn que j'écoutais sur Europe 1.
Il vous aime beaucoup, hein. Je lui ai demandé.
Ça me fait vraiment plaisir. J'adore Jean-François et j'ai découvert à la Forêt des Livres
chez Gonzague.
J'ai découvert Axel avec qui on a passé deux jours magnifiques de camaraderie avec Axel Kahn. Camaraderie, j'aime la famille Kahn.
Vous avez fait encore des émissions sur la chanson avec Jean-François.
Oui, parce qu'il était passionné de chansons. Ouais. Moi, je l'écoutais sur Europe le matin. Il présentait le journal de 8h et il avait un édito qui me passionnait, quoi. Super bien écrit, simple. Moi, j'ai vu Kahn, je l'ai accompagné dans des discussions avec un public, quoi. Style à la FNAC, je sais pas comment ça s'appelle.
Ah, mais il adore ça, lui, en plus.
Mais ce type qui est quand même un érudit,
passionné.
Un intellectuel, je voyais ces dames un peu fortes avec le panier à provisions sous le bras et tout, qu'il l'écoutait, qu'il regardait comme si c'était Bruel, quoi.
Oui, ah, mais il est généreux avec son public.
Ah oui, oui. Et alors, il a eu la gentillesse de me proposer de travailler avec lui sur son émission de télé. Il y avait l'émission d'Inter, mais sur son émission de télé où il invitait des chanteurs, mais il fallait que ce soit décalé. Donc, je lui avais amené, parce que je connaissais ses copains, Nougaro, mais qui chantait tout autre chose, Dutheil, je me souviens plus. Enfin, bon, voilà.
Voilà.
Belle rencontre, Kahn. Belle rencontre. Mais je n'ai fait que des belles rencontres, Benoît.
Oui, mais enfin...
La dernière étant aujourd'hui avec vous.
Ça, c'est gentil.
Non, mais je n'ai fait que des belles rencontres, je vous jure.
En tout cas, donc, ces années de critique musicale, moi, j'ai été très heureux de découvrir ça quand on prépare en l'émission. Et elles vous ont aussi conduit, à la suite d'une critique désagréable, en fait, à rencontrer Thierry Le Luron.
Ouais.
Hein, vous aviez été pas très gentil sur son spectacle et il a très mal pris.
Vous voulez que je vous raconte quelque chose, une vérité. J'ai jamais raconté. Comme je gagnais très très mal ma vie, je me suis dit un soir, tiens, je vais essayer de bien bouffer ce soir. Et ou bien bouffer à Paris, quand on est critique de spectacle, c'est d'aller dîner dans un dîner-spectacle.
Ouais.
Parce que là, vous avez le saumon fumé.
Ou la rouge.
Voilà.
Le casin.
Et donc, je me retrouve au Don Camillo, voilà. Où je suis reçu très comme un prince, quoi. Et la vedette du spectacle, c'était Thierry Le Luron, qui avait quitté Lederman, son producteur, et qui, après avoir rempli les arènes de Béziers, de Nîmes, de tout ce que vous voulez, une énorme vedette, était revenu au Don Camillo parce qu'il avait du mal à retravailler. Quoi.
À ce point-là.
Ah oui. Vous savez, quand vous quittez un producteur influent, vous avez beaucoup de mal à travailler parce que le téléphone sonne.
Ouais.
Si vous prenez machin, je vous aurais plus mes artistes. Enfin bref. Et j'ai trouvé ça nullissime. Et
vous l'avez écrit.
Et je l'ai écrit.
C'était dans le quotidien de Paris.
Paris. Mais je l'avais écrit de façon marrante, quoi. J'essayais d'écrire de façon un peu marrante, avec des titres un peu flash et tout, quoi. Vivant.
Et il a été furieux, mais il vous a contacté.
Furieux. Pendant un an, il m'a craché dessus. Dès que j'écoutais la radio, il y avait le Luron, il me crachait dessus et tout. Et un jour, il m'appelle. Ah, c'est vrai, hein. Et il me dit, c'est le Luron, puisque vous êtes si malin que ça, écrivez-moi mes textes. Voilà. Et là encore, belle rencontre. Je me dis, mais j'ai pas le droit de passer à côté de ça, quoi. Ouais. J'étais à la pige au quotidien. On gagnait vraiment rien, hein, parce que pige, ça nourrissait quoi. Pas ouais, son ouais, homme, hein. Ouais. Ça nourrissait pas son homme. Et j'ai dit, il faut que je tente le coup. Donc, je lui ai écrit 3-4 textes que j'étais lui mettre sous son paillasson pour être sûr de pas le rencontrer. Il habitait alors après, la porte s'est ouverte, bien sûr. Il habitait 1000 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés. C'était Versailles. C'était Versailles. C'est extraordinaire parce que, quand vous sonniez à la porte, parce que après j'ai vécu 7 ans avec lui, vraiment, vous entendiez les pas de Thierry sur le marbre, mais on avait l'impression qu'il venait de très, 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 très loin.
On va revenir à vos années Le Luron, mais on va d'abord écouter une chanson, L'Emmerdant, c'est la rose.
Ah bah oui, ça. Ouais.
C'est une de vos œuvres.
Ah oui, oui, oui. Ouais.
C'était venu comment?
Oh, alors là, c'est simple. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai jamais été capable d'écrire de chansons, mais les meilleures parodies sont celles qui viennent tout seuls. L'important, c'est la rose. L'emmerdant, c'est la rose.
C'était après Mitterrand aussi,
voilà,
tout ça.
C'était en plein Mitterrand. C'était chaud. On les voyait toujours sortir avec leur rose. Moi, j'avais présenté le congrès de Valence, qui était le premier congrès du Parti Socialiste.
Comment ça
à Valence. Bah, présenter le spectacle. Après leur discours, il y avait toutes les vedettes de gauche.
Vous étiez militant, vous aussi?
Bah, bien sûr. Moi, c'est Jospin qui m'avait demandé de venir présenter.
Ah oui.
Bah oui, mais.
Ah, on m'a dit que j'étais un humoriste de droite, il y a
mais
des gens.
Non, mais c'est parce que j'ai écrit pour Le Luron.
C'est compliqué.
Je sais plus où j'en suis aujourd'hui. aujourd'hui, je sais plus où j'en suis. Et alors, attendez, il y avait Roger Hanin qui offrait une rose à chaque artiste rentrant sur scène. Alors, il y avait Catherine Lara, il y avait tous les mecs de gauche, quoi. Enfin, quand je dis mec, c'est pas
les artistes.
C'est pas
les artistes un peu
tous
officiels les de la gauche, quoi.
Voilà.
Il y a une chanson de Gilbert Bécaud et Louis Amade qui n'est pas encore devenu un hymne national. Ça viendra peut-être avec vous ce soir si vous la reprenez avec Gilbert Bécaud. Ouais, salut. Le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Ouais, vraiment, vraiment, l'Élysée prit pour 7 ans. Un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand, l'emmerdant.
C'est la rose, l'emmerdant.
Allez-y, ça détend.
C'est la rose.
Crois-moi. La rose nous pique au sang. La France est au goutte à goutte, sans détente, coûte que coûte, pour longtemps, à ce rythme, évidemment, c'est bientôt la banqueroute, car c'est déjà la déroute en chantant l'emmerdant. C'est bien beau pays tout de même, ouais. C'est même ça que j'aime. Et pourtant, je dédie au président cette chanson, ce poème en forme de requiem pour cet impôt l'emmerdant.
Thierry Le Luron dans une chanson de Gilbert Bécaud involontairement et Bernard Mabille plus volontairement.
30 ans, hein, 30 ouais. ans. Ouais.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, Bernard Mabille, c'est vrai que on est dans le pays des étiquettes, de toute façon. Mais c'est vrai que le Luron, généralement, c'est comique de droite.
Bah oui, parce que c'est comique de droite, parce qu'il avait une grosse voiture, il menait les grands trains et tout.
Mais ah, moi, c'est ça, vous croyez, tout simplement? Bah,
oui. C'est ça, parce que j'attendais, entre mon temps, chanteur de gauche, qui chantait devant un tulle pour planquer ses musiciens, et le Luron, comique de droite, qui les invitait à bouffer, tout le personnel, tous les jours, on était tout le temps ensemble.
Ah oui.
Attendez.
Simplicité.
Pour moi, c'est ça la gauche, c'est le partage. Ouais, c'est le partage.
Ça, ouais.
Hein,
oui, c'est vrai.
C'est pas chanter les roses de Picardie devant un tulle. Non, mais. Ouais. Et puis à la fin, ouvrir le truc en disant il y a quelques musiciens dont ils se souviennent. Non, attends. Ça me fout en rang.
Ça, c'est le comportement. Après, est-ce qu'il y a un humour de gauche, un humour de droite?
Vous savez que Thierry, par exemple, mais il s'en est jamais vanté, mais il a donné, alors que le gymnase était plein à craquer et tout, il a donné une soirée, offert une soirée à SOS Racisme. Il a défendu Knobel Peace. Je me souviens, on était à Rouen, il y avait un gala pour Knobel Peace. Vous vous souvenez de Knobel Peace, voyou, entre bon, bref. Enfin,
qui avait été emprisonné, qui était devenu un héros.
Où là devaient venir toutes les belles consciences de gauche, Monsieur Bedos, tout ça. Le seul qui soit venu, c'est Thierry, quand même. Devant une salle pleine à craquer, il est rentré, il s'est fait huer par les mecs dans la salle en disant « Qu'est-ce que ce type de droite vient faire ?» Et il répondait de tac au tac, il a dit « Je souhaite à Robert que les juges auxquels il aura affaire soient moins cons que vous. » Hop, ouais. Il a retourné la salle, mais... On peut pas leur être de gauche, de droite, je sais pas ce que ça veut dire.
Et dans le public, il y a des publics de gauche et des publics de droite, peut-être? Non.
Je sais pas. Non, il y a des publics qui ont envie de rire, qui ont envie de voir de belles choses, qui ont envie de passer un bon moment, puis voilà.
Qui ont envie qu'on se moque du monde très librement, ça vous le faites avec férocité.
Moi, j'adore Guy Bedos. J'adore Guy Bedos parce que je pense que je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Guy Bedos. Et sa revue de presse m'a toujours époustouflé. Mais attends, l'humoriste à message, ça m'a toujours gonflé aussi, quoi. M'a toujours gonflé. Moi. J'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois voter ou pas voter ou machin, tout. Je suis libre.
Le Luron, c'est donc devenu un vrai ami. Hein. Vous avez même écrit un livre sur lui après. Ben, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans votre vie.
J'ai passé 7 ans avec lui, 20 heures par jour.
Voilà. 20 heures par jour. Et pourtant, c'était pas quelqu'un de facile. Hein. C'était pas gagné tout de suite.
Mais c'était une star. C'était une véritable star.
Ouais.
J'ai eu la chance de vivre auprès d'une star. Je pense que pourrait vous dire ça quelqu'un qui aurait vécu auprès de Marilyn Monroe ou Johnny Hallyday, quoi. Il y en a très peu. C'était vraiment une star.
Il y a des œuvres, je sais pas si le mot convient, enfin, des sketchs ou des, dont vous êtes particulièrement fier dans ce que vous avez fait avec le Luron.
Oh, bah oui, mais je pense que le mieux, c'était quand même le gymnase avec l'interview de Mitterrand à Lacher, le véritomètre. Georges Marchais.
C'est d'ailleurs vous qui avez un peu contribué, Bernard Mabille, au fond, à faire passer le Luron du registre, plutôt justement de la parodie d'artistes, de chanteurs, notamment de variétés, au registre de la parodie politique.
Oui, parce que je devais m'apercevoir inconsciemment que les artistes passeraient alors que les politiques sont toujours les mêmes durant de longues années. Donc, c'était les vrais people, quoi. C'était les vrais people. Ça commençait à devenir les vrais people. Donc c'était une mine d'or. Et puis alors, un côté plus matériel, quand on écrit des parodies en SACEM, on avait le droit qu'à un douzième des droits, donc c'était pas beaucoup. Est-ce que
les sketchs écrits... Il y a l'auteur et la musique originale,
que les sketchs écrits, c'était 100%. Bon, enfin voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait du grain à moudre avec les politiques.
Quand le Luron est...
Il commençait à déconner sec, déjà, à l'époque.
Oui, il y avait de quoi faire. Oui, il y a toujours eu
Mitterrand qui parlait aux arbres, tout. Non, c'était formidable.
Quand il est mort en 1986, Thierry Le Luron, vous êtes tout d'un coup retrouvé dans une grande solitude, sans rien, sachant pas très bien où vous alliez.
Solitude morale d'abord, morale, parce que il était plus jeune que moi de 3 ans, donc j'ai jamais pensé qu'il pouvait partir avant moi. Donc solitude morale. En plus, il est quand même parti après de longues douleurs. Puis je voulais pas écrire pour les autres, j'ai eu des propositions, parce que c'est comme ça le métier, hein. Quand ça marche, on vous propose, quand ça marche plus, on vous propose pas. Donc on m'a proposé, et puis je voulais retrouver, il y a eu un veuvage.
Ça a mis un certain temps à repartir. Hein.
Je suis reparti à zéro, quoi.
Voilà. J'ai trouvé un autre document, alors vous avez peut-être hurlé, surtout ne ressortez pas ça, qui porte un peu votre signature. C'est la même époque, hein, c'est 1982, vous savez, c'était l'époque du feuilleton Dallas.
Oui, Dali Dallas.
Oui, non, Arras.
Arras, oui.
Vous la connaissez, cette version?
Oui, ben, je m'en souviens plus, mais Arras, oui. Ouais.
Ville lumière inoubliable, est ton nom?
Arras.
Tes roches, tes usines, tes étables.
Arras.
Et tout ça à cause d'un feuilleton.
Oui, Benoît, si vous deviez passer toutes les bêtises que j'ai pu écrire, on serait là pour trois jours.
Ben voilà, non, mais c'est pour montrer quand même, vous êtes un maître de la parodie musicale, c'est le principe. Oui, oui. Et c'est un genre que j'aime beaucoup, alors voilà. Là, c'était Arras par les Nordistes, hein, c'est le nom du groupe. Et,
oui, je ne sais plus qui c'était.
En tout cas, c'est vous qui avez fait l'adaptation.
On a dû en vendre deux.
En tout cas, après ce, oui, vous dites ce veuvage peut-être de.
Oui, c'était ça.
Des années
ça.
Le Luron.
J'ai eu comme ouais, la perte d'un petit frère, quoi. Vraiment.
Et puis les choses sont reparties
difficilement.
Alors, il y a eu des étapes importantes. Alors peut-être je vais trop vite, mais il y a eu notamment les grosses têtes.
Ah oui, non, bah là c'est bien longtemps après. C'est bien après, oui, c'est bien après. Non, là j'ai commencé après la disparition de Thierry, j'ai commencé à faire de la scène.
Oui.
C'était Jean Vergne qui était le patron du Don Camillo, qui est toujours le patron du Camillo, qui m'a dit si tu veux oublier un peu tout ça, avoir peur toute la journée et tout, monte en scène. Donc je suis monté en scène. Et là je suis monté en scène un peu faisant le kéké, quoi. Vous voyez, comme j'avais écrit des trucs qui marchaient dans le rire, j'ai cru bêtement que c'était facile de le faire, mais vendre ça soi-même, c'est autre chose.
Eh oui. Bah vous êtes rapproché aussi un peu, oui, du monde des chansonniers,
justement, parce que je me faisais virer de scène. Ouais. Donc je me rapprochais de la coulisse. Oui.
À ce point-là.
Oh, et un soir, j'avais bu parce que pour avoir le courage de monter, et j'avais bu et j'ai dit bonjour au mur. J'étais du mauvais côté, quoi. J'étais retourné. J'ai pas fait gaffe. Ah non, c'est des moments terribles, terribles. Mais vous savez, le public de dîner spectacle, de cabaret, c'est le plus dur parce que d'abord, il vient pas vous applaudir, il vient pas vous voir, et il mange. J'y bois, il n'y a rien de pire que d'avoir pour concurrent le homard surgelé. Ah, faire rire quand les mecs sont en train de taper au violet sur le homard, c'est très dur. Alors, c'est très marrant parce que j'ai fait le homard, après j'ai fait la viande, le plat de viande, donc ça allait déjà un peu mieux. Le quart de brie, la portion de brie, alors là ça allait encore mieux. La bûche glacée, l'omelette norvégienne, et après je suis passé après le repas. Alors là, c'était la star.
Ah oui, c'est
grosse vedette. Mais vous savez, le Don Camillo, vous qui vous intéressez à tout ça, quand je montais ces marches du cabaret, je me disais, mais sans monter là, on prit ce chemin, Reggiani, Trenet, Hugo Frey, Robert Lamoureux, tout le métier, Massia, Sardou, tout le métier
passé
là. Oui,
c'est quand même beau, comme ça, de sentir qu'on est sur les traces des grands ancêtres.
Ah oui, comme au Théâtre Antoine, qu'est-ce que vous voulez, quand vous
donnez en ce moment une fois par mois votre spectacle.
Fais pas de critique,
on le redira tout à l'heure.
Quand je pense que Jouvet, tous ces gens-là sont passés par ces couloirs, ça fait vraiment quelque chose.
Ou les pièces de Sartre qui ont été créées là-bas.
Bien sûr.
Également.
Et de Pinter.
Donc,
vous avez vu que vous êtes tombé quand même
sur un intello.
Sur un artiste intello. C'est rare.
La rencontre avec Bouvard, elle s'est faite comment, Bernard Mabille?
C'est Thierry, je crois, qui me l'a présenté. Mais quand on était de ma génération journaliste, on n'avait qu'un rêve, c'est de devenir Philippe Bouvard. Il représentait tout. Il représentait le succès en presse écrite, le succès en radio, le succès en télé. Il a tout inventé, Philippe.
Oui, c'est vrai.
J'admire ce bonhomme parce que on avait fait un spécial Philippe Bouvard l'autre fois sur la 2, il y a déjà un ou deux ans. Et on s'apercevait que, oui, il a tout inventé. Et je ne parle pas du petit théâtre de Bouvard auquel je n'ai jamais participé, mais il a tout inventé. Et alors, quand je lui ai serré la main pour la première fois, on ne peut pas dire qu'il soit très agréable. Hein. C'est pas sa qualité première.
Il n'est pas dans l'empathie.
Non, il n'est pas dans l'empathie, non. Et il m'a dit, si ça marche, vous restez. Si ça ne marche pas, vous faites qu'une émission. C'est sympa.
Ah, c'était comme ça?
Ah, oui, bon, moi, c'était franc. Hein.
Ah, la barre était haut.
Ouais. Alors, il fallait trouver, aux grosses têtes, il fallait trouver sa place.
Et vous l'avez trouvé, parce que on est beaucoup à vous avoir un peu mieux connu grâce aux grosses têtes. tête à cette époque-là, quand même.
Il y avait quand même Yann, il y avait Martin, il y avait Kersauzon, il y avait Carlos, il y avait Brialy, que des gens. Que des gens formidables. Que des gens formidables. Et moi, j'étais là avec mon petit côté natif de Bois-Colombes, à regarder tout ça en disant, ce sont des gens que j'ai vus dans les journaux, que j'ai écouté à la télé.
Philippe Castelli.
Oh, Castelli. Ah ouais, c'était génial.
Et alors, vous êtes quand même un de ceux qui ont fait le lien entre, on peut dire, les deux époques des grosses têtes, puisque ça continue aujourd'hui de façon très brillante, d'ailleurs, avec Laurent Ruquier. Et vous êtes resté.
C'est-à-dire que je ne connaissais pas Laurent quand la radio m'a demandé si de rester. Il m'a dit que Laurent ne serait pas contre ça. On a déjeuné, tout simplement, et j'ai trouvé un type sympa, mais vraiment sympa, ouvert, généreux, brillant, moderne, parce qu'il faut dire quand même qu'avec Bouvard, sur la dernière année, c'était quand même un peu pénible, vous savez, ça traînait, il n'y avait plus le rythme et tout, bon, on a eu 12 fois Napoléon en 15 jours, enfin bon, et là, ça a redonné un petit coup de vif, et ce que je regrette, je le dis franchement, je regrette que Philippe Bouvard n'ait pas adoubé Laurent Ruquier en disant, bon ben, j'ai 80 et quelques années, je passe mon tour,
c'est
je fais
toujours
chose.
Difficile de partir. Ouais.
Ça aurait été tellement bien, et puis Philippe serait venu faire un invité d'honneur de temps en temps, ça aurait été formidable. C'est la petite tâche, c'est la seule petite tâche sur la succession.
Un autre aspect de vos activités, Bernard Mabille, c'est le métier, on peut dire, un peu de chansonnier dans la tradition des deux ânes et avec cette revue de presse, notamment, que vous faites avec Jacques Maillot. C'est une tradition que vous connaissez, que vous aimez, la tradition des chansonniers, des souplexes, des dorins, etc.
Non. J'ai jamais fait partie des chansonniers. Je les écoutais parce que ma grand-mère écoutait les chansonniers. Il y avait des chansonniers à l'époque, le mercredi soir à la radio. C'était encore le poste. Ça fait vraiment vieux con, mais c'était encore le poste à lampe, et on écoutait des chansonniers. Et il y avait des gens que j'aimais beaucoup, c'était Rocca, j'aimais beaucoup Rocca, très vif, j'aimais beaucoup Ennio Meunier, qui chantait sur des chansons modernes, non, il y avait des gens qui m'intéressaient, mais c'est le chansonnier, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais pour moi le chansonnier c'est un peu poussiéreux d'abord, et puis ça bouge pas, moi j'aime bien travailler mon spectacle comme un journaliste, c'est-à-dire changer plein de trucs, sans arrêt, renouveler. Le chansonnier, on arrivait en début de saison, on repartait à la fin de la saison avec le même, quasiment le même texte.
Oui.
Et ça me convenait pas, mais...
On va en écouter un petit bout quand même, de ces vieux 78 tours.
Ah bah oui, avec plaisir. Alors si, j'ai eu une idole, c'était Jean Rigaud. Mon père, c'est Jean Rigaud.
Ouais.
Parce que dès que mes parents partaient, on écoutait les disques de Jean Rigaud, qui étaient quand même très osés.
Oui. Ah,
j'adorais Jean Rigaud. Et on s'aperçoit que Coluche lui a beaucoup pris dans le ton, dans le rythme, dans le... beaucoup, beaucoup.
Alors là, moi, j'ai choisi du chansonnier chantant. Là, il s'agit de Dorin et Colline dans une chanson qui s'appelle « On s'en fout ».
Je connais sous un ciel bleu un petit pays fort aimable où chacun fait ce qu'il veut et personne n'est responsable. Il y a des chefs, des conseillers, des sous-chefs, des employés, des maires, des juges, des préfets, même un président, oui mais l'employé s'en fout, le sous-chef s'en fout. Monsieur le maire, savez-vous ce qu'il fabrique? Monsieur le maire s'en fout, son adjoint s'en fout. Le préfet, savez-vous ce qu'il fait? Le préfet s'en fout, le ministère s'en fout, tout au bout de la voie hiérarchique, souriant et nous, le président s'en fout, tout le monde ici s'en fout de tout. Voulez-vous prendre le train?
Divorcer avec madame.
Faire coffrer un assassin.
Envoyer un télégramme.
Si ça va bien, c'est heureux.
Si ça va mal, c'est fâcheux.
C'est pas la peine d'insister,
car vous l'avez constaté.
Le chef de gare
s'en fout.
La postière
s'en fout.
Le gendarme, le juge, le commissaire. Messieurs les jurés, sais-je l'aurais juré, l'enturlu, à qui s'en foutra le plus? Et quand écœuré, vous allez pleurer sous les vieux murs gris du presbytère. Le curé s'en fout, sacristain
s'en fout, tout le monde ici s'en fout de tout.
Les braves gens qui voient tout ça sont fatigués d'être dupes. Chacun d'eux se croisant les bras attend que l'autre s'en occupe. Le charcutier, le pharmacien, son chargeur est bel et bien. Et le coiffeur également.
Oui, mais voilà le chien lent.
Charcutier
s'en fout.
Pharmacien
s'en fout.
Le coiffeur prend la vie du notaire. Le notaire
s'en fout.
Le coiffeur. coiffeur s'en fout
d'écouter l'homme de bonne volonté. Ce 17 fois,
il n'y a plus que moi qui m'en fais, et j'ai tort de m'en faire. Si chacun s'en fout, moi aussi je m'en fous,
et tout le monde comme ça se fout de tout. Charcutier s'en fout, le pharmacien s'en fout, le coiffeur prend la vie du notaire, le notaire s'en fout, le coiffeur s'en fout, d'écouter l'homme de bonne volonté. Se disait de moi, il n'y a plus que moi qui m'en fais, et j'ai tort de m'en faire. Si chacun s'en fout, moi aussi je m'en fous, et tout le monde comme ça se fout de tout.
Voilà, ça nous rajeunit pas. Hein, c'était en 34.
C'est le père de Françoise Lorrain. Hein.
C'est le père de Françoise Lorrain, qui était un grand chansonnier, oui, ici avec Paul Colline. Oui. Alors, ce ton des chansonniers qui est toujours un peu, bah voilà, on se moque beaucoup de la politique, de la société, etc. Bon, il en reste quand même quelque chose.
Bien sûr, c'est les 100 ans du Théâtre des Deux Âmes. Et je sais que Françoise Lorrain a débuté avec Jean Poiret. Elle a connu Jean Poiret sur la scène du Théâtre des Deux Âmes.
Voilà. Et donc,
Jean Poiret, voilà, un grand mec. Hein.
Oui.
Oh là là.
On dit aussi qu'il y a quelque chose de français comme ça dans cet esprit, oui, de la dérision politique qui fait beaucoup rire le public,
etc. Ce qu'on peut reprocher aux chansonniers, Benoît, c'est que c'était une caste, c'était des privilégiés et qui ne se sont jamais ouverts aux jeunes.
Ouais.
Donc ils n'ont pas renouvelé le genre.
Leur genre,
voilà.
Ouais, ouais.
Et le genre chansonnier a été renouvelé par l'équipe de Jamel, tous ces gens qui sont très drôles et qui font de la politique. Et aujourd'hui, vous verrez, aujourd'hui quand même beaucoup d'humoristes font de la politique. Je pense à Guillaume que j'adore, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vu que Gad Elmaleh allait faire sur une chaîne de télé de l'humour politique. Voilà, c'est bien. Mais les chansonniers par eux-mêmes, moi, j'ai jamais pu rentrer chez les chansonniers. Jamais, 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 jamais.
Voilà, précision intéressante. Merci, Bernard Mabille. Alors, bon, on a évoqué les premiers spectacles difficiles, puis un peu moins difficiles, l'entrée jusqu'au dessert, donc à Millau.
C'est pour tout le monde.
Vous avez fait un spectacle même à la ménagerie du Cirque Bouglione, en 98.
Alors là, c'était déjà un spectacle abouti, avec un vrai public. Enfin, oui, c'était bien. J'ai passé un bon moment, là.
Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'au fond, votre carrière, elle a commencé relativement tard.
Ouais.
C'était une ascension jusqu'à l'Olympia, à 65 ans, quoi.
Merci de me le rappeler.
Non, mais c'est beau justement, parce qu'aujourd'hui, souvent, les carrières dans le showbiz, ça commence très jeune et très fort, et puis après, on a du mal à suivre.
Ouais.
Vous, non, vous avez...
Oui, c'était Sarkozy qui allait chercher la reprise avec les dents. Et ben moi, je suis allé chercher les spectateurs avec les dents, 10 par 10.
Voilà.
Au départ,
Au
départ, quand il y avait 25 personnes dans la salle, j'étais content, j'ai dit, oh la vache, j'ai fait 25 personnes ce soir. Puis après, c'est monté. Et
puis vous avez rempli l'Olympia, finalement.
Oui, puis maintenant, en province, je tourne sur des salles de 1100, 1200, tranquillement, quoi.
Mais au contraire, moi, je trouve ça fait envie, quoi. On se dit, voilà, tout est possible.
Bah oui. Le tout, c'est de... Étonnez-moi, Benoît, c'est étonne-moi, Bernard, quoi.
Oui.
Quand je me suis vu à l'Olympia, alors je vais vous raconter un truc. J'étais tellement heureux parce que j'avais vu Johnny Hallyday, toutes mes idoles à l'Olympia. Je suis allé le matin à 7 heures pour voir la montée des lettres sur la façade.
Ouais.
Je regardais, ils sont en train d'écrire Mabille.
Mon nom.
Oh. Mais c'était pas prétentieux du tout, c'est un truc de gosse, quoi.
Bah oui, comment?
De gosse. Et quand je me suis retrouvé là, qu'est-ce que j'étais heureux. C'est ma fille qui tenait le rideau. Ah, c'était génial. Ah non, c'est génial.
Alors, votre nouveau spectacle, je suis allé le voir donc au Théâtre Antoine, dans une salle bondée, très heureuse. Alors, vous le donnez une fois par mois à Paris, hein, parce que ça tourne beaucoup quand même autour des élections, en partie.
Oui, je suis obligé de suivre la question par rapport à...
Mais vous vous adaptez d'un mois à l'autre
par rapport
à l'évolution de la campagne électorale.
Ah bah oui, par rapport au mois dernier, il y a quand même le renoncement de Hollande. Je commence
l'arrivée de Fillon en première ligne.
Je commence par l'enterrement de Sarkozy, avec le cercueil qui sort de la Villa Montmorency, tiré par quatre poneys, vous voyez, et les roues qui, sur le pavé de Paris, font bling, bling, bling.
Donc, au contraire de ce que vous disiez tout à l'heure des chansonniers, c'est un spectacle évolutif.
Ah, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez, le mec qui vient vous voir, si vous lui parlez de Clémenceau, il sait pas trop ce que c'est, quand même, hein.
Alors, quand je parlais de vous l'autre jour avec Jean-François Kahn, il me dit, ce type, il est tellement doué, tellement drôle.
C'est vrai.
Et il me dit, mais attention, c'est un humour, c'est souvent assez méchant.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, j'ai réécouté, on va en écouter un bout dans le spectacle. Vous y allez quand vous parlez de cette pauvre Juliette Gréco qui est plutôt jeune, ou de Johnny Hallyday et des retours des vieilles stars sur la scène. Est-ce que c'est méchant?
Non, mais attendez, mais pas du tout, j'en parle parce que je suis moi-même une vieille star, c'est ce que je dis. Je dis mais vous êtes sûrement en train de vous demander, mais quel âge a-t-il? Bah, je dis, j'ai 69 ans, mais c'est le retour des vieux.
C'est pas le retour des vieux, c'est le nom du sketch d'ailleurs que j'adore.
C'est le retour des vieux. Attends, y a la joie qu'il y a maintenant un spectacle en hologramme, hein, avec Claude François, Mike Brandt, je sais plus qui, et puis le spectacle sur Dalida, le film sur Dalida et tout, c'est le retour des vieux, quoi.
Ouais, et puis l'humour, il peut pas être gentil, mais pas non...
Mais c'est ça. Mais on peut être vache avec les autres quand on est vache avec soi-même.
C'est le retour des vieux. Quand je vois Juliette Gréco, j'étais au Printemps de Bourges, Juliette Gréco, 87 ans, mesdames, messieurs, c'est pas magnifique, ça? Cocteau l'appelait, là... La longue flamme noire, Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés, à l'époque des fiacres. 87 ans, quand elle attaque Déshabillez-moi. Oh ! Toute la salle se barre. Alors là... Ah non, c'est le retour des vieux, c'est génial. Johnny fait une tournée magnifique, Johnny Hallyday. Notre Johnny Hallyday. Oh, je l'adore. Quand je l'ai vu à la République, la chanter pour deux mecs qui le haïssaient, Cabu et Cavana. Il était tout seul, hein. Il a pris 30 000 euros pour chanter tout seul. Hein. Ça fait cher du mot, quand même. Hein. Vous savez, c'était l'époque où Hollande dévoilait tous les jours un truc. Vous vous souvenez de ça pendant une semaine? Il était à côté de la plaque. Tout le temps. Il a planté un chêne à la République, c'est incroyable. Première fois qu'on voyait un chêne planté par un gland. Ah non, c'est étonnant. C'est quand même curieux d'avoir pris un évadé fiscal comme Johnny pour rendre hommage aux morts, quand même, non, vous trouvez pas? C'est évadé fiscal, il avait dit, je suis parti à cause des impôts, j'en ai marre d'être un mouton qu'on plume. Il a eu du bol, il aurait pu être un pigeon qu'on tombe. Il est con, il est con! Oh là là! Quand il avait joué la pièce de Tennessee Williams, j'avais été le voir, et puis il était bon d'ailleurs, mais il n'avait pas beaucoup de dialogue, il faut dire. Hein. Il est bon dans le silence, Johnny. J'ai été le voir après en loge, parce que c'est un copain, donc je monte, dis non. Il était tout chafouin, je dis qu'est-ce qui se passe? Il fait oh là là! Il dit, ça fait 10 jours qu'on joue la pièce de Tennessee Williams, l'auteur est pas venu nous voir. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Allez. Je me suis dit, si je lui dis qu'il est mort, il va faire une syncope. Alors je lui ai dit, c'est comme toi, il habite aux États-Unis. Il dit, la prochaine fois, je jouerai Molière, il habite toujours chez nous. Attends.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens.
Ah oui, il chante Bernard Mabille, vous l'entendez, chers auditeurs.
Alors à cette époque-là,
là,
Benoît...
c'est l'époque où il était en pleine forme.
Ouais, ah mais non, mais j'adore Johnny.
Non mais en fait, vous l'aimez vraiment.
Ben hein. Oui, mais oui,
mais c'est quand même méchant ce que vous dites.
À cette époque-là, on avait créé un groupe de musique. Et le pianiste, c'était Jean Musy, qui a été après
oui,
un énorme orchestrateur,
grand chef d'orchestre.
C'était mon pianiste.
Ah ouais.
Et on s'appelait Danny Brocken et les Black Ties.
C'est vrai?
Oui, c'était pour draguer les filles, hein, uniquement. Et je chantais du Johnny Hallyday, Retiens la nuit, tu peux l'apprendre, et tous les types de...
Et vous le connaissez vraiment aujourd'hui?
Johnny? Oui, je le connais, mais pas bien, c'est pas un ami.
Mais vous joueriez votre sketch devant lui?
Bien sûr. Bah oui, non, bah bien sûr. J'ai déjà joué devant lui des trucs, oui. Mais j'avais même été le voir avec des copains de lycée à Offenbourg quand il avait fait son service militaire.
Ah oui, c'est une vraie passion.
Un vrai fan. Et je dédicassais des photos de lui à Bernard, signé Johnny. oui. Et j'ai eu les vêtements de scène de Johnny parce que. Oui! Ah, j'aime bien votre surprise. Parce que j'étais copain avec le gardien de Loconville et il chouravait les vêtements de scène du Palais des Sports. Alors j'ai porté le pantalon à la mai. Ah ouais. De Johnny Hallyday. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, quand t'arrivais en surprise partie avec ça, ça.
Donc en ça fait, c'est un hommage à votre idole, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Mais j'aime bien tout le monde. Hein, c'est pas.
Moi, vrai. J'aime la liberté de votre humour.
Il faut se moquer.
Alors.
Attendez, Benoît, vous me voyez, vous m'avez en face de vous. Si j'avais le physique de Brad Pitt, je ne pourrais pas faire ce métier. Si je fais ce métier, c'est parce que je suis gros, con et moche. Donc je peux me moquer des autres.
Bon, en tout cas, il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans le spectacle, c'est que vous arrivez, alors peut-être que je suis naïf, que c'est simplement la vérité, que vous improvisez et que vous n'avez rien préparé, mais vous arrivez à donner cette impression d'une décontraction d'un type qui est là avec ses papiers, qui passe d'une réflexion à l'autre, voilà, et qui... La scénographie est toute simple, mais il y a un naturel, je trouve. En fait, c'est du naturel travaillé.
Il y a 40 ans de boulot, quand même.
Oui, c'est ça.
Non, c'est vrai. J'essaie de travailler avec des...
Quand
des
vous cherchez dans vos papiers, c'est bidon.
Ah oui, oui.
Mais c'est très bien, ça donne ce ton improvisé.
J'essaie de travailler avec des metteurs en scène. J'avais travaillé avec Jacques Rony, qui était un très beau metteur en scène de théâtre, et j'ai travaillé avec Yves Pignot, qui m'a bien fait avancer. J'adore Yves, il m'a bien fait avancer. Mais après, moi, quand on fait du one man, comme ça, on peut pas être prisonnier d'une mise en scène, et Yves Pignot l'avait très bien compris. Il m'a donné des voix, des pistes, le ton à prendre, des choses comme ça, mais après, moi, je suis libre.
Voilà, il y a juste un fauteuil, une petite table, un petit coin.
Vous avez vu le fauteuil?
Un petit coin salon.
On l'a acheté à retraité.
Ben, ça vient de Bois-Colombes, peut-être de chez vos grands-parents.
Oh non, ne me parlez pas de Bois-Colombes. J'ai voulu emmener mes enfants à Bois-Colombes, j'ai dit, vous allez voir, j'ai six gosses, hein. J'ai dit, vous allez voir, on a fait un autocar, vous allez voir la maternité où est né votre père, mais ça a été rasé, il n'y a pas de vie à Bois-Colombes. Ce sont des résidences, quoi.
Enfin, donc il y a un petit coin salon pour retraiter sur scène, et puis il y a vous.
On l'a acheté en Seine-Saint-Denis. Je voulais un fauteuil qui est vécu, quoi. C'est le cadeau que m'a fait l'équipe pour ma retraite.
Donc le spectacle avec vous, en fait, il est différent presque à chaque fois.
Ouais. Vous avez remarqué, il n'y a pas de sketch, ce sont des réflexions.
Ouais.
Et le tout, c'est que toutes les 20 secondes, il y a un gros éclat de rire.
Voilà.
Voilà, et
parce qu'il y a quand même l'art du jeu de mots, du calembour, etc. Alors là, moi, j'admire parce que je n'ai pas ce sens-là.
Mais... Des fois, non. Je préfère avoir votre talent, je vous jure. Non, mais ce n'est pas de la blague.
Ça vient tout seul, comme ça les...
ouais.
Ou ça se travaille,
ouais.
Ça aussi?
Non, ça vient tout seul. Et puis des fois, la langue française, cette merveilleuse langue française nous apporte des cadeaux parce que, exemple,
oui.
Quand je vois que Fleur Pellerin a été virée à cause de Modiano, finalement, hein, et je lisais des trucs de Modiano, et je m'aperçois, en regardant les livres qu'il avait écrit Fleur de Ruine.
Ouais.
Et ça m'a permis de dire, Fleur de Ruine a fait la ruine de Fleur.
Ah oui, alors ça c'était
tout
près, quoi.
Il y a pas que du pampan cucu, hein, il y a quand même des trucs. Non mais c'est beau la langue française, c'est magnifique.
Vous savez que c'est lui qui a écrit aussi une chanson qui s'appelle Étonnez-moi Benoît, qui a donné son titre à cette émission. C'est Modiano à l'époque où il écrivait des chansons
pour
Françoise Hardy. Exactement.
Je le savais.
Alors Bernard, on a plus beaucoup de temps, mais on va revenir un petit peu à votre premier métier de critique de chansons, parce que vous m'en avez proposé quelques-unes que je connais pas bien. Alors je voudrais que vous nous disiez pourquoi.
Ouais.
Donner envie de les écouter. La première, c'est The Pact par Divine Comedy.
J'adore Divine Comedy.
Ouais.
C'est un Irlandais.
Ouais.
Il a un disque où il chante Les Copains d'abord. Il chante plein de chansons classiques françaises en français.
Ouais.
C'est divin, si j'ose dire, puisque Divine
Comedy.
Mais j'aime cette légèreté, j'aime cette ambiguïté. Divine Comedy, je l'écoute au moins une fois par jour, un disque de lui.
Voilà, ça, c'est le papier de Bernard Mabie pour pas le quotidien de Paris. Mais
c'est
pour,
léger,
pour,
c'est pour léger. C'est... On a l'impression de voler. Quand on écoute ça.
This is our pact. This is our entente cordial. When they attack, and you can be sure that they shall, we shall without delay come to each other's aid and man the our pact. This is the treaty that we've signed. What one may lack, the other party will provide, and everyone must know. You mess with one, you mess with both, and together we'll beat the bastards back. This is our pact. The bond
nation forged in fire to benefit the common good and further our desires. A special relationship, a meeting of the minds. Two proud and sovereign nations sit together side by side. This is our pact, and we will come when duty calls, no turning back. It's all for one and one for all, and though the world may try to come between us by and by, together we'll beat the bastards back. This is our pact.
The Pact par The Divine Comedy, c'est le beau, choix de Bernard Mabie. Beau, bravo, hein. Oui, vous voyez, vous m'étonnez,
on est
Bernard.
Pas loin de... Je suis content de vous étonner, Benoît. Non, on n'est pas loin de Étonnez-moi, Benoît, qui a été écrite par Modiano.
Voilà.
Hein pour François Hardy. Non, mais on est pas loin de traîner, quoi. C'est très agréable.
J'allais vous demander, parce que on a commencé avec la journée du comédien vu par Jacques de Broncaert. C'est que c'est quoi la journée de Bernard Mabie?
Je me lève très tôt. Très tôt. 5,
même quand vous jouez le soir.
Oui, 5-6 heures pour écouter les nouvelles, lire les nouvelles, et puis trouver
de la matière première.
Voilà. Après, je pars faire de la radio, et puis après, je reviens. L'après-midi, je dors un peu.
Ah oui, quand même.
Ouais, je dors. C'est impossible de vivre avec des gens comme nous, parce qu'on est complètement décalés. Hein.
Ah ouais.
Je dors, puis après, je vais jouer. Et puis c'est souvent aussi... je passe ma vie avec ma maîtresse et ma valise à roulettes, hein, finalement, parce que je voyage beaucoup.
Bah oui, tout le temps sur les routes. Vous aimez les hôtels?
Ouais, mais c'est-à-dire que quand je suis pas sur scène, c'est affreux à dire, mais j'ai l'impression de m'ennuyer, de plus vivre, de plus respirer. Ouais, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Ouais.
C'est pour ça que vous écoutez de la musique pour vous remonter le moral.
Bah oui, j'ai les écouteurs, beaucoup. Mais j'achète encore les disques. Moi, j'aime bien acheter les disques. Vous imaginez une vie sans musique? C'est une journée sans soleil.
Ah non, moi j'imagine pas, non.
C'est une journée sans soleil.
C'est vrai. Hein? Merci d'avoir été avec nous, Bernard.
Oh, j'étais content, vous pouvez pas savoir.
On a encore plein de choses à se dire, mais en tout cas, on en a dit quelques-unes. Le spectacle continue, donc vous tournez tout le temps partout.
Jusqu'à fin juin.
Vous êtes une fois par mois au Théâtre Antoine, mais comme la politique change tous les mois, on peut y aller tous les mois.
Voilà.
Vous préparez tout de suite autre chose déjà?
Pour la rentrée prochaine, j'aimerais bien partir avec. J'ai lu un très beau texte de Jérôme de Verdière qui présente la revue de presse. Deux personnages, je l'ai proposé à Ariel Dombas. Le personnage de la femme, ce sont des sketchs, j'aimerais bien partir avec quelqu'un, ouais.
Alors vous allez être comédien, finalement, contrairement à ce que vous disiez au début.
Oh, pas vraiment, je crois pas. C'est, l'autre fois, là, quand vous êtes venu au théâtre, il y avait Pierre Laville, qui m'a fait d'immenses compliments, et là, je suis tombé de ma chaise. Il m'a dit, vous m'avez rappelé, c'est sympa.
C'est presque le même métier. On se quitte.
Allez, j'arrête encore, parce que je vais prendre le melon.
Hein. Le critique musical, un dernier petit coup, Beth Hart.
Ah, j'adore. Alors ça, c'est Georges Lang qui me l'a fait découvrir. C'est du blues, du rock. Elle passe en général accompagnée par Jacques Bonamassa, guitariste. J'adore. J'aime. Et la fille est belle.
En plus, ça ne gâche rien. On se quitte avec elle. Merci Bernard Mabie.
Merci Benoît.
À bientôt.
1, 2, 3. He plays so sexy to me. 3, 4, 5, 6. Kids got some brand new licks. 6, 7, 8. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat. Checkers and dice, rule of backgammon.
other room, Cisco on ice.
Always a reasonable price. Women in heels, 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 in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums be breaking a sweat. The man is as hot as a high roller spit. The sticks click like time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call.
Jazzman par Beth Hart, un choix de mon invité qui était ce matin Bernard Mabille. Alors vous l'avez compris, son spectacle évolutif un lundi par mois, c'est au Théâtre Antoine. Le dernier, c'était d'ailleurs la semaine dernière, donc le prochain, il faudra attendre un petit peu, c'est le 23 janvier, prochain épisode avec les nouveaux rebondissements de la campagne électorale. Et puis également, à partir du mois de janvier, beaucoup de dates un peu partout en France pour Bernard Mabille. Il passe d'une ville à l'autre très très régulièrement à partir du 22 janvier. Le mieux, c'est d'aller voir sur son site. Et le site, c'est bernard-mabille.com.
Thank you.
J'aime beaucoup le titre de cette polka de Johann Strauss, polka du courrier express. Oui, ça nous rappelle un temps où le courrier allait très 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 vite. Aujourd'hui, ça aurait plutôt tendance à ralentir un petit peu. Enfin, heureusement, il reste beaucoup de fonctionnaires très dévoués dans notre service public. Et c'était un extrait du concert du Nouvel An 2009. C'est aussi une occasion de vous rappeler que dans pas longtemps, eh bien, ce sera le concert du Nouvel An de Vienne, dirigé cette année par Gustavo Dudamel. Et il est maintenant 12h14 sur France Musique. Nous avons le dernier rendez-vous de cette émission. C'est évidemment celui que nous propose aujourd'hui Martin Péné. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Très heureux de vous retrouver pour poursuivre cette évocation d'un certain nombre d'artistes à travers des archives rares que vous avez cherchées pour nous. Alina. Aujourd'hui, Rissé Barrier.
Aujourd'hui donc, et le mois prochain, nous allons explorer la carrière de Rissé Barrier, personnage atypique et attachant de la chanson française qui nous a quittés en 2011 déjà, à l'âge de 78 ans.
Et je devais le recevoir pour la deuxième fois cette année-là et puis malheureusement les choses sont allées trop vite, mais j'ai un très bon souvenir de notre seule émission au tout début d'Étonnez-moi Benoît.
Et je vous comprends, on va voir pourquoi en explorant un petit peu cette carrière. Alors, il est issu d'un milieu populaire de la banlieue parisienne. Il se destinait d'abord au métier de professeur d'éducation physique, qu'il a tout de même exercé durant 5 ans. Mais en fait, il pratiquait aussi la musique en amateur. Et c'est la découverte de Félix Leclerc qui lui donne le virus de la chanson au tout début des années 50. Et il commence à composer pour son plaisir, tout en apprenant la guitare, le banjo et même le ukulélé. Il passe en 1955-56 par le fameux Petit Conservatoire de Mireille qui lui déclare « Risset, vous êtes fait pour chanter du comique ». Et alors voilà, il commence à fréquenter les cabarets de la rive gauche pour se familiariser avec le métier et débute en amateur au directoire. Et en 1955, il fait une rencontre essentielle, celle de Bernard Leloup, qui était d'ailleurs représentant de commerce à l'époque, avec qui il collaborera durant des décennies pour écrire des chansons. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est Rissé et Barrier composent davantage les musiques. Leur travail est tellement imbriqué que finalement, ils décident de signer conjointement paroles et musique. En 1957, Rissé fait sa première tournée d'été avec la grande fantaisiste Marie Dubas, qui lui enseigne les rudiments de la scène, tout comme Raymond Devos. Et la même année, il passe une audition au Cheval d'Or, le cabaret de la rue Descartes, où passait également un peu plus tard Bobby Lapointe. Et c'est grâce à une chanson intitulée « Drôle de vie » qu'il est engagé. Un peu plus tard, il est convié à l'interpréter lors d'une soirée publique du Club d'essai qui a été enregistrée au Théâtre de l'Alliance française à Paris le 28 décembre 1957.
Drôle de vie. Drôle de vie.
Dernièrement, j'ai vu un agent qui n'avait pas de moustache, c'est curieux, ça fait une tache. Voir un agent qui ne frise pas sa moustache, c'est le bâton blanc sans ornement. C'est une drôle de vie que la vie qu'on vit dans notre vie, c'est plein de rien qu'on voit partout, mais quand il y a tout, on ne voit plus rien du tout. Je vais acheter un œuf chez le crémier. Je le paye en souriant avec un billet de 1000 francs. Il me dit merci en me rendant 9000 francs. C'était gentil, mais l'œuf était petit. C'est une drôle de vie que la vie qu'on vit dans notre vie. Quand on veut beaucoup, on n'a rien du tout. Quand on veut rien, on a beaucoup. Oh oui. J'ai un réveil qui marque l'heure de la veille. J'ai voulu leur mettre à l'heure, maintenant j'avance de 12 heures. Quand il est midi, mon réveil marque minuit. C'est une drôle de vie que la vie qu'on vit dans notre vie. Quand on veut rien, on a beaucoup. Quand on veut beaucoup, on n'a pas grand-chose. Oh mon Dieu. Pour prendre un tableau, j'ai pris un marteau. Au premier coup que j'ai frappé, la maison s'est effondrée. Tout ça pour un clou. Je voulais planter d'un seul coup. J'ai pris sur le dos la maison et le tableau. C'est une drôle de vie que la vie qu'on vit. Quand j'étais petit, on me disait toujours que t'es bête. C'est vrai, car je tombais toujours sur la tête. Oh. Maintenant c'est fini, je m'en suis remis. La seule chose qui me tracasse, c'est les agents sans moustache. Mais on le sait, le monde n'est pas parfait.
Il s'est marié à ses débuts en 1957 au Club d'essai, une archive de l'INA que nous propose Martin Péné.
Oui, alors c'est d'ailleurs sa toute première apparition sur les ondes à l'âge de 25 ans. Il est bon, quasiment inconnu à cette époque-là. Il fait ses armes dans différents cabarets, l'Écluse, l'Échelle de Jacob, la Fontaine des Quatre Saisons et d'autres petits lieux voués à la chanson. Et en 1958, il rencontre Jacques Canetti qui l'engage au Théâtre des Trois Baudets et lui fait enregistrer son premier disque 25 cm chez Philips, qui comporte déjà une flopée de chansons marquantes et qui lui vaut le prix de l'Académie du disque. Alors, jugez du peu, donc Drôle de vie qu'on vient d'entendre, La Java des Gaulois, La Dame de Ris-Orangis, Dolly 25, Le Crieur de Journaux, et ce qui deviendra l'une de ses chansons les plus célèbres, La Servante du Château. Mais à vrai dire, cette chanson est un peu à l'origine d'un malentendu, parce que ça a réduit Ris et Barrier au rôle de comique paysan, un petit peu comme Bourville au début de sa carrière. Or, ce registre paysan ne représente en fait qu'une toute petite partie de son œuvre riche, caractérisée par le comique de situation et la tournure souvent un peu parodique de la forme musicale. Alors voici tout de même La Servante du Château dans une interprétation captée au cabaret du Cheval d'Or et diffusée au cours de l'émission Rendez-vous à 5 heures en juin 1958.
Voici un chanteur qui s'accompagne à la guitare, au banjo, au ukulélé, Ris et Barrier. Ris et Barrier, le voilà. Le voici.
Avec Bernard Leloup, nous avons écrit une chanson pour Denise Benoît, La Servante du Château. C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les cieux. Je manie le balai et puis le torchon. Je fais la pâtée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas de pieds dans le même sabot, j'ai de la vaillance plus qu'il en faut. Ici, qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne, c'est un mijauré qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison. Je compte les bouteilles et les chapons et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au bal, l'autre au cimetière. Qui c'est qui sue, même en hiver? C'est moi. Faudrait pas croire que je sois un laidron. Les gars me courent au cotillon. S'ils ne gardent point les mains dans leur poche, moi je te leur refile une taloche. Même le baron, quand il s'approche, je le chasse à grands coups de plumeau. J'ai de la vertu plus qu'il n'en faut. Qui sera la rosière du hameau? C'est moi.
1958, La Servante du Château dans Rendez-vous à 5 heures. C'était toujours Ris et Barrier dont on parle ce matin avec Martin Péné. J'ai connu très jeune d'ailleurs parce que mes parents avaient le 45 tours de la Java des Hommes Grenouilles.
Oui, tout petit peu après cette époque-là, mais c'est encore tout à fait les débuts de Ris et Barrier. Et là, on a eu le plaisir de, quand même d'entendre le public de Cheval d'Or réjoui d'entendre cette chanson un peu paysanne et qui a assuré le succès de Ris et Barrier. Et après Marie Dubas, eh bien, les premiers interprètes du tandem Barrier Leloup sont d'autres chanteurs du registre fantaisiste comme Denise Benoît, c'est d'ailleurs ce qu'il expliquait au début de cette archive, et Marcel Hamon qui a enregistré Les Crieurs de Journaux, et surtout les frères Jacques qui dès 1958 consacrent un 45 tours, 4 titres aux chansons du tandem avec Dolly 25, Les Pasteurs, Les Clochards et Eugénie de Beaulieu. Et ces athlètes complets de la chanson, comme on les surnomme, sont en effet à l'affût d'œuvres qu'ils peuvent mettre en scène. Et c'est ça la caractéristique des frères Jacques. Et pendant ce temps, eh bien, Ris et Barrier continue à peaufiner son répertoire au cabaret du Cheval d'Or, et c'est à nouveau là que les micros de la radio se déplacent en décembre 1959, l'occasion de capter une chanson dont il n'existe à ma connaissance aucune version sur disque, La Belle Oui Oui. Alors, évidemment, j'ai choisi de la faire découvrir à nos fidèles auditeurs et amateurs de rareté.
Une toute nouvelle chanson qui s'appelle La Belle Oui Oui, ou Une sacrée petite bonne femme. Un jukebox du quartier, elle met une pièce de monnaie, c'est rapport à son Dédé, qui adore les mélodies
à la crème chantilly. Elle poussa sur le 23, Dédé l'a pris dans ses bras, et sur la sueur du carreau, ils se mirent les fuseaux en bisous. Quand Dédé lui dit « Écoute ce tango », elle lui répond « Oui ». Quand Dédé lui dit « T'écrases mes poireaux », elle lui répond « Oui ». T'es jolie et tu sens bon, mais t'as pas de conversation. Y a un bas de film dans le quartier, oui, moi j'y vais, va faire le dîner. Ah, la sacrée petite bonne femme. Quand arrive le dimanche, ils vont taquiner la tanche, c'est elle qui tient les puisettes. Lui avec sa goulette, harponne les ablettes. Il regarde passer les moutons, oui, il dérouille un petit canon. Et elle se fait enguirlander parce qu'elle a oublié le pâté. Quand Dédé lui dit « Décroche le bateau », elle lui répond « Oui ». Quand Dédé lui dit « Écope un peu l'eau », elle lui répond « Oui ». Dire plus fort sur l'aviron, moi ça me donnait du rayon. Surveille un petit peu le bouchon, oui, moi je vais piquer un roupillon. Oh la sacrée petite bonne femme. Un beau jour il l'a quitté pour une Sophie stiquée, qu'avait le sinus de travers et le corps sage ouvert. Aux quatre courants d'air, elle était prête pour se venger et à toutes les extrémités. Mais Dédé au jour de l'an s'est rappliqué tout en n'expliquant. J'étais chez ma mère du côté de Quimper. Oui, regarde la belle surprise, je t'amène des éclairs. Oui, prends pas serre de mélodrame et remballe ton vague à l'âme. Si tu veux pour l'ouverture, on ira chez Arthur manger une petite friture. On louera un char à banc rempli de lilas blanc et avec tes parents, on passera par la mairie. Et au maire, on y dira oui. Oui, oui.
La belle Oui Oui, chantée par Rice et Barrier dans Rendez-vous à 5h, un document INA de 1959, Martin Penet.
Et oui, Rice et Barrier est appelé peu après au service militaire et après main sur scie, il est finalement réformé pour raison de santé, ce qui lui évite de devoir partir pour 2 ans en Algérie. Il tourne alors dans une comédie de Claude de Givray et François Truffaut sur la vie militaire Tire au flanc 62, dont il compose également la musique avec Jean-Michel Defaille. Sa carrière peut donc se poursuivre, tant au cabaret qu'au music hall, et de nouvelles chansons sont enregistrées, comme La Marie, encore une chanson paysanne, et 14 juillet bizarre. Les frères Jacques mettent à leur répertoire à cette époque La Java des hommes grenouilles que vous citiez, Le savoir-vivre, ou encore Stanislas, qui illustre une autre facette du talent de Rice et Barrier, mêlant élégance d'écriture, humour et sensualité.
C'était en hiver et déjà tombait la nuit. Quand elle arriva, je lisais Paul Géraldi. Elle me dit bonjour en soulevant sa voilette et sur son nez fit voltiger sa houppette. Adorable sous les plumes de son chapeau, elle frissonnait sous un manteau d'oslot. Je me penchais pour baiser sa main opaline, mais lorsque mes lèvres se firent plus câlines, en soupirant elle murmura d'une voix lasse: oh, n'insistez pas Stanislas. Je la fis asseoir sur mon beau divan chinois, tout contre moi. Sa peau de satin. Copain, copain. Elle avait gardé ses plumes et son chapeau, mais déboutonné le manteau d'oslo. Mes yeux plongés dans ses yeux couleur d'ambre gris, elle protesta, je suis affreuse aujourd'hui. Oh non, quelle audace, non, n'insistez pas Stanislas. D'une voix douce, elle me fit une proposition. Faisons, voulez-vous, une partie de mahjong. Mais bientôt mon vieux coucou sonna 4 fois, effarouchée, elle quitta le divan chinois. Elle remit en ordre ses plumes et son chapeau et reboutonna le manteau d'oslo. En la suppliant, je la repris par la taille. Elle se dégagea en me disant bye bye. Seul comme un idiot,
je me suis vu dans la glace. N'insiste pas Stanislas. Oh non, n'insiste plus Stanislas.
Stanislas par Rice et Barrier, c'était dans l'émission Dimanche pour tous en 1965, Martin.
Et alors, si vous voulez en savoir plus sur le parcours et la personnalité de Rice et Barrier, je vous recommande chaudement la lecture du livre de Bernard Kerruel, Le savoir-vivre de Rice et Barrier, paru récemment dans les collections Cabaret aux éditions de l'Harmattan. Et c'est en quelque sorte une biographie autorisée, écrite du vivant du chanteur. Et je remercie surtout Lina, et plus particulièrement Marine Decamp et Catherine Louboutin, qui vont nous permettre de découvrir chaque mois de nouveaux trésors chantés.
Merci, merci Martin Penet. Et donc ça, c'était la première partie de Rice et Barrier. On vous retrouve après les fêtes, comme on dit, au mois de janvier, pour la deuxième partie.
Avec plaisir, cher Benoît.
À bientôt. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique, Benoît Latil avec Emmanuel Dupuis et Charles Barjou. Réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, nous fêterons Noël en compagnie du grand, du merveilleux Gabriel Baquier qui sera donc notre cadeau de fin d'année. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.